Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Ce mercredi, Planète Terre par Sylvain Kahn, suivi du Salon Noir de Vincent Charpentier.
Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mercredi sur France Culture, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Ouais. Dans Planète Terre, aujourd'hui, je vous convie à une réflexion sur le risque volcanique au Japon. Pour nous y guider, j'accueille Marie Augendre. Marie Augendre, bonjour et bienvenue en direct du studio 167 de Radio France.
Bonjour Sylvain Kahn.
Au contact de trois plaques tectoniques, l'archipel japonais ne compte pas moins de 108 volcans. Éruptions et séismes sont partie intégrante de l'histoire et de l'horizon des Japonais. On a longtemps parlé de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, pourtant, on appréhende la relation entre sociétés humaines et aléas naturels en termes de risques et de vulnérabilité. C'est le cas en géographie, mais aussi en écologie, en sociologie politique et en anthropologie notamment. Ces disciplines ont également emprunté à la physique le concept de résilience, qui définit la capacité d'un objet à retrouver son état initial après un choc. L'idée est la suivante. Un risque supposé se construit scientifiquement et socialement. Les conséquences d'un accident naturel, physique si vous voulez, dépendent autant sinon plus du degré de fragilité ou de cohésion de la collectivité qui y est confrontée, du degré d'anticipation et de préparation par cette collectivité de l'accident donné. Une éruption volcanique peut donc ou non être catastrophique. Comment la société japonaise s'est-elle ou non appropriée ce risque séculaire? Ce risque engendre-t-il un aménagement spécifique du territoire? Le risque volcanique au Japon, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Marie Augendre, vous êtes professeure agrégée de géographie en poste à l'Université Louis-Lumière de Lyon. L'année dernière, vous avez soutenu votre thèse « Vivre avec le volcan au Japon », pays que vous arpentez depuis plus de 5 ans. De vos voyages d'études et de terrain, vous avez rapporté des clichés photographiques éloquents qui sont accessibles en ligne depuis la page web de Planète Terre, je vous en remercie, ainsi que le laboratoire Prodigue qui les héberge. Partons précisément du terrain. Comment vous caractériseriez le volcanisme au Japon? Dites-nous, Marie Augendre.
Alors, c'est un volcanisme qu'on qualifie de volcanique explosif. Et ce volcanisme est donc dû au fait que le Japon se situe sur une frontière tectonique particulièrement active qui fait partie de ce qu'on appelle habituellement la ceinture de feu péripacifique, qui regroupe à elle seule 80% de l'énergie sismique libérée sur la planète et 90% des volcans émergés, sachant que l'essentiel du volcanisme reste cependant sous-marin, donc en dehors du champ du risque et des catastrophes. Alors, ce Japon, il a une forme qui suggère un peu arquée l'existence d'un contact entre des plaques qui plongent, en fait, des plaques océaniques pacifiques qui plongent, et Philippines aussi, sous la bordure asiatique du continent. Et cette plongée dans un manteau chaud va contribuer à faire fondre une partie des sédiments et de la croûte qui va... par effet un peu montgolfière, arriver vers la surface et provoquer un certain nombre d'éruptions qui, au Japon, s'effectuent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le biais d'une centaine de volcans actifs à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on appelle un volcan actif, c'est une définition qui peut varier beaucoup. L'activité à l'échelle humaine pour un volcan, ça n'a pas trop de sens, puisque c'est des édifices qui se sont construits pour la plupart, des centaines, des milliers, parfois des millions d'années. Et on sait que le volcanisme aujourd'hui au Japon s'effectue sur des sites qui sont des sites éruptifs, notamment avec des caldeiras, des grands cratères d'effondrement qui sont vieux de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années.
Est-ce qu'on peut dire pour autant que le Japon serait comme un gigantesque archipel volcanique ou c'est un peu abusif comme façon d'en parler ?
Alors, contrairement à un arc volcanique pur, hein, qui serait vraiment au contact de deux plaques océaniques, une partie du Japon est un morceau de socle qui s'est détaché du continent asiatique. Donc, il y a une partie, même si le volcanisme a une influence omniprésente, que ce soit par les produits, les sols ou l'activité elle-même, il y a une partie des reliefs, notamment certains des plus hauts sommets, hein, dans le centre du Japon, qu'on appelle la région des Alpes japonaises, qui ne sont pas volcaniques.
C'est-à-dire donc que tout le relief montagneux n'est pas uniquement lié à l'activité volcanique.
C'est ça. Parmi les petites îles, hein, qui entourent le bloc principal, formé des quatre grandes îles, hein, Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu.
Du nord au sud, hein,
si du nord au sud, si je vous voilà. Suis bien. Donc en dehors de ces quatre îles principales, il y a plusieurs milliers d'îles ou de petits îlots. Et sur ces milliers d'îlots, on considère qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont aujourd'hui des volcans actifs. Donc finalement, c'est assez minoritaire.
C'est la raison pour laquelle, si je ne me trompe pas, hein, et je parle vraiment sous votre contrôle pour le coup, au Japon, il y a un mot pour désigner le Japon lui-même qui veut dire, je crois en français, l'île volcan.
Alors oui,
ou l'île volcanique, comment est-ce qu'on dit ça en japonais ?
Les Japonais l'appellent parfois Kazanletto, donc l'archipel volcanique, et pour faire référence au fait que c'est un archipel dont une partie de l'origine, hein, est volcanique et peut être considéré comme, Taziev le disait aussi, comme un guépier de volcan, donc où les éruptions se succèdent parfois avec une fréquence assez répétée.
Alors, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens de se demander si les volcans ou si les reliefs volcaniques occupent une certaine proportion de l'étendue du Japon. Est-ce que c'est une bonne question à se poser pour essayer de voir quel est le lien entre aménagement du territoire et risque volcanique ? Est-ce que c'est une question, disons, quantitative ou en fait pas du tout ?
Bah, ce qu'on chiffre surtout, et les données qu'on donne pour le Japon habituellement, c'est plus des questions qui sont liées à la pente, parce que c'est elle qui va commander un certain nombre de phénomènes gravitaires qui peuvent provoquer de l'érosion, des glissements de terrain ou autres. Et on peut considérer que le Japon est formé à 70%, de 75% quasiment, de régions montagneuses et 25 à 30% de plaines. Et c'est très important, surtout quand on observe la répartition du peuplement et où on se rend compte que ce peuplement se concentre en fait dans des zones qui sont plutôt basses, donc à l'écart des zones de montagne. Après, on a l'habitude aussi de comptabiliser le nombre de volcans actifs. Alors là aussi, il y a débat, selon qu'on considère que ce qu'on appelle l'activité volcanique, c'est tout ce qui concerne les volcans dont on connaît une éruption dans la période dite historique, donc pour laquelle on a des sources écrites. Mais là, on a tout de suite un problème, c'est qu'en fonction des continents, si on sort un peu du Japon, les sources écrites ne commencent pas toutes au même moment. Donc la période historique varie pour les volcans des différents continents. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'activité d'un volcan ne se mesure pas à l'échelle humaine. Et on peut très bien voir des volcans qui sont assoupis, hein, pendant plusieurs centaines d'années et qui ne sont pas du tout éteints. Et on a l'habitude plutôt de considérer actif un volcan dont les traces d'activité remontent aux 10 derniers millénaires, c'est-à-dire en gros l'Holocène, la période post-glaciaire.
Est-ce que ces dernières années, il y a des éruptions volcaniques qui vous paraissent particulièrement significatives pour appréhender le phénomène au Japon ?
Alors, il y a certains volcans qui connaissent des cycles éruptifs extrêmement fréquents. Le mont Aso, par exemple, sur l'île de Kyushu, hein, au sud de l'archipel, a des éruptions de type strombolien quasiment tous les 2-3 ans.
Alors, strombolien, si vous pouvez nous rappeler rapidement.
Strombolien, pour donner une image proche de chez nous, ben, c'est le Stromboli, hein, le volcan italien qui a donné son nom à ce type d'éruption. Et c'est le type d'éruption qu'on peut observer aujourd'hui dans la chaîne des Puys, par exemple, même si les volcans sont un peu différents, puisqu'il s'agit de volcans monogéniques, donc qui sont issus d'une seule phase éruptive. Le mont Aso, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un stratovolcan, donc un volcan qui a une activité éruptive extrêmement longue dans l'histoire. On pourrait le comparer au Cantal, si on veut reprendre un exemple français. Et ce stratovolcan, en fait, c'est un empilement de coulées de lave, de produits de type pyroclastique, donc des morceaux de lave fragmentés, soudés à chaud ou encore meubles. Et il a un cycle d'éruption qui est très fréquent. Le Sakurajima, pas très loin de lui, encore un peu plus au sud, connaît aussi une activité qui est quasiment subcontinue depuis le milieu du XXe siècle, après avoir connu des grandes éruptions assez espacées, en 1914 par exemple, en 1946. Et puis après, il y a des volcans dont les éruptions sont beaucoup plus rares. Je pense au mont Unzen, par exemple, qui a connu une éruption qui est connue en France, ne serait-ce que parce qu'elle a coûté la vie à deux célèbres volcanologues français qui sont Maurice et Katia Kraft, donc une éruption qui a duré de 1991 à 1995. Et ce volcan était, au moment de son entrée en éruption, assoupi depuis la fin du XVIIIe siècle. On pourrait citer aussi le mont Fuji, dont la dernière éruption connue, notable, remonte à 1707, et dont depuis on n'a plus vraiment de signes d'activité, même si il est sans doute loin d'être éteint.
Le mont Hunsen, vous en parliez à l'instant, a métamorphosé le paysage du littoral en particulier, je crois. Vous avez mis sur cette banque de photographies consacrée au Japon, à partir de laquelle on peut accéder par le, enfin à laquelle, pardon, on peut accéder par le site de Planète Terre sur France Culture. Donc, vous avez mis une photo très très parlante, qui est la photo 26, hein, pour ceux qui voudraient chercher à la retrouver. Pourquoi est-ce qu'elle vous a paru particulièrement significative ? Et est-ce que vous pouvez dire en quoi les écoulements de lave très très importants, hein, si je vous comprends bien, vous dites que ça peut abattre tous les obstacles, les constructions, mais que ça a également permis de réaménager le littoral. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Alors les deux éruptions de Hunsen, hein, donc séparées de 200 ans, ont eu une partie de leurs conséquences identiques à la fin du XVIIIe, en 1792. Il y a eu une explosion d'un des flancs du volcan qui s'est effondré dans la mer. Et donc la topographie de la côte, mais aussi de la mer proche, a été complètement transformée. Et encore aujourd'hui, on peut voir des micro-îlots, alors aujourd'hui ils sont couverts de végétation, qui sont apparus suite à cette éruption. Et entre 91 et 95, la répétition de coulées pyroclastiques, donc la création d'un dôme de lave, hein, alimenté par une chambre magmatique de façon continue pendant plusieurs années, et l'effondrement de ce dôme de lave le long de la pente et jusqu'à la mer, a conduit à l'arrivée en surface de tonnes de matériaux qui se sont répartis petit à petit le long du chenal principal d'écoulement, mais aussi dans la mer. Et donc, petit à petit, le tracé de la côte s'est trouvé modifié. Et une fois que cette éruption a été terminée, eh bien, cette avancée sur la mer a été transformée en quelque sorte en terre-plein naturel sur lequel se sont construits de nouveaux bâtiments, donc qu'on appelle aujourd'hui Eisei-machi. Donc Eisei, c'est l'ère impériale dans laquelle on est toujours depuis 21 ans maintenant. Et Machi, c'est la ville, donc c'est la ville de l'ère Eisei, hein, donc un nouveau terrain conquis sur la mer grâce aux matériaux issus du volcan.
Ce qui veut dire qu'il y a donc une relation, on va l'appeler pour le moins ambiguë, alors, avec le risque volcanique dans la société japonaise.
Eh bien, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent nous présente plutôt les volcans comme des risques ou des contraintes dont il faut se prémunir ou en tout cas gérer au mieux. Et on se rend compte par beaucoup d'aspects du quotidien ou de la vie japonaise que ces volcans, ce sont aussi des ressources et des aménités. Alors, ressources historiques, puisque qui dit volcanisme explosif dit aussi soufre. Et au 19e siècle, enfin, jusqu'au 19e siècle, le soufre a été un des premiers, sinon le premier produit d'exportation du Japon vers le continent. Un soufre extrêmement pur qu'il fallait chercher à proximité des cratères, ce qui n'était pas d'ailleurs dénué de danger. Et ce volcanisme, il est aussi à l'origine d'une richesse inestimable qui sont les sources chaudes dont bénéficie le Japon, qui sont, mon souvenir est exact, hein, de l'ordre de 25 à 30 000 répartis dans tout l'archipel.
Et pourquoi c'est une richesse inestimable?
Parce que cette ressource en eau, elle est utilisée de façon traditionnelle et de plus en plus aujourd'hui pour un loisir dont les Japonais sont férus, qui sont les onsen, donc ces bains thermaux en intérieur ou en extérieur d'ailleurs, qui n'ont plus du tout le caractère sacré qu'ils ont pu avoir dans la tradition religieuse, mais qui gardent pour tous les Japonais une très forte connotation de détente et de plaisir en dehors de la vie quotidienne ou à côté de la vie quotidienne.
Et c'est une pratique qui s'est démocratisée par rapport à la période où c'était quelque chose qui avait une valeur sacrée.
Les bains publics ont sans doute été beaucoup plus importants avant que ne se diffusent les bains privatifs, plus importants qu'aujourd'hui, mais la pratique du bain, donc qui n'est a priori pas mixte, hein, les femmes sont séparées des hommes, reste une pratique sociale extrêmement importante. Alors on pourrait sans doute pas comparer ça tout à fait des lieux de groupement social comme le café, par exemple, ou autre, mais ça a un rôle extrêmement fort dans la société encore aujourd'hui.
Alors, en tous les cas, excusez-moi, je vous ai un peu détourné de ce que vous étiez en train de dire. Donc, vous parliez des volcans comme d'une ressource. Donc, vous parliez donc du soufre, de ce thermalisme, si l'image n'est pas impropre. Et donc, l'agriculture, j'imagine aussi.
Alors, l'agriculture, oui. Alors, on a souvent l'idée que les sols volcaniques sont très fertiles, ce qui est vrai, surtout dans le monde tropical, où en fait, les pyroclastites, les cendres, sont très vite dégradées par l'altération chimique et le climat, et donne des sols, se transforme avec la pédogenèse en sol assez rapidement, ça prend quelques années. Donc c'est une espèce d'apport du volcanisme qui est un peu indifféré, mais pas trop, par rapport à l'éruption. Dans le Japon, qui est plutôt en climat tempéré, parfois frais, hein, surtout quand on monte en altitude, cette transformation des produits volcaniques en sol fertile prend beaucoup plus de temps. Donc cette fertilité, elle est sans doute à questionner dans le cadre du milieu tempéré. C'est des sols qui sont souvent acides. Et dans le cas des coulées de lave, là, c'est plutôt une destruction du potentiel agricole, hein, de façon souvent très durable, puisque on est souvent obligé de ramener de l'extérieur, hein, des terres fertiles, ou de concasser en fait la couche de produits volcaniques, hein, qui recouvre les sols, pour pouvoir de nouveau les cultiver. Alors, il y a quand même des cultures sur les sols volcaniques, souvent des cultures sèches, par exemple le soja ou la patate douce, hein, ou du chou en altitude. Mais ce n'est pas forcément une manne en termes de fertilité, en tout cas dans ce contexte climatique.
À propos de coulées de lave, je pense à une scène impressionnante que vous avez photographiée dans le Honshu. C'est une photo que vous avez numérotée 13. C'est une école et un collège qui sont abandonnés et envahis, éventrés même par une coulée de lave qui s'est produite, je crois, en 2000. Et puis, à l'arrière-plan, on distingue donc cette espèce de langue de lave très noire, très impressionnante. Et puis tout à côté, un équipement de type barrage en gris clair. Alors, qu'est-ce que ça signifie, à la fois cet abandon d'un équipement social et puis en même temps cette construction d'un équipement technique
Alors, c'est une photo qui a été prise à Miyakejima, qui est une petite île dont la population s'élève autour de 3000 habitants aujourd'hui, qui est située à un peu moins de 200 km au sud de Tokyo, qui fait partie du département de la capitale. Et en fait, ce collège, enfin c'est un collège et une école primaire ensemble, ont été détruits en fait en 1983, la coulée de la date de l'éruption de 1983, mais c'est effectivement un volcan, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, qui a connu une éruption en 2000. Alors une éruption un peu particulière dans son genre, puisqu'on était habitué sur cette île à avoir un volcanisme finalement assez effusif, donc vous l'avez bien dit, une coulée de lave noire, donc en fait c'est un basalte, et donc une activité de type strombolien, avec un peu des projections, mais surtout des coulées de lave. Donc un risque finalement modéré, en tout cas pour les personnes, même si pour les biens, on le voit bien sur cette photo, effectivement, elle peut causer des dégâts importants. Cette coulée a d'ailleurs enseveli la moitié du village voisin, qui s'appelle le village d'Ako, et une partie des maisons, enfin en tout cas des habitants, ont dû être déplacés. Alors, ce collège, il a été abandonné parce que la lave est tout simplement rentrée à l'intérieur. Et on peut aujourd'hui l'observer d'un peu plus près que je ne pouvais le faire à l'époque où j'ai pris la photo, puisque cette coulée de lave a été équipée en quelque sorte d'une passerelle en bois qui permet d'aller se rendre compte un peu des dégâts que peut faire un volcan. Donc c'est une espèce de mise en valeur à la fois mémorielle mais aussi pédagogique, hein, pour développer un peu la conscience du risque et la connaissance des volcans. Et alors, ce qu'on voit en arrière, c'est ce qu'on appelle un barrage sabo. Alors, les Japonais appellent ça sabo. Ça, c'est les sables, les sédiments. Bo, c'est la protection. Donc, ça désigne, ce terme de sabo, tous les ouvrages, plutôt du génie civil, qui sont construits pour protéger contre les dégâts sédimentaires, que ces dégâts soient d'origine volcanique ou indirectement volcanique, donc des coulées de boue, hein, qu'on appelle des lahars, les coulées de boue d'origine volcanique, ou des protections contre des écoulements sédimentaires qui ne seraient pas volcaniques nécessairement, des coulées torrentielles, des effondrements, des glissements de terrain. Donc ce type de risque. Et la présence de ce barrage n'est pas du tout anodine, puisqu'elle est même au contraire symptomatique d'une des façons dont les Japonais ont pris le risque à bras-le-corps. en décidant qu'il y avait un moyen de lutter contre les dégâts causés. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler des dégâts secondaires. Donc, ce n'est pas tant des dégâts qui sont liés à l'éruption elle-même que ce qui peut se produire, même parfois très longtemps après l'éruption, lorsque les matériaux accumulés sur les pentes, hein, pas stables du tout, sont soumis à des précipitations plus ou moins importantes et commencent à dévaler les flancs des volcans jusqu'à atteindre éventuellement des zones habitées et peuplées. Donc cette lutte contre l'érosion, qui est assez ancienne d'ailleurs, elle prend face au volcanisme une tournure assez monumentale, puisque sur la photo on a un aperçu mais finalement assez limité. C'est un barrage qui a été construit avant l'éruption de 2000, et depuis 2000 ce type d'ouvrage s'est vraiment multiplié sur l'île. Donc quasiment tous les ruisseaux, tous les semblants de ravins ont été équipés de ce type d'ouvrage. Alors on est un peu surpris des fois parce que 4 ans, 5 ans, 6 ans après, alors ça fait bientôt 9 ans, enfin ça fait 8 ans et demi maintenant que l'éruption a eu lieu, certains barrages sont encore propres, hein, presque muséifiés comme au premier jour, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de servir.
Mais alors est-ce qu'il faut entendre dans cette remarque une espèce de critique implicite mais forte contre ce que j'appelle rapidement le bétonnage des zones volcaniques du Japon? Enfin, peut-être que le terme est totalement impropre, hein, surtout corrigez-moi si je me trompe.
Mais... Alors, c'est un terme qu'on emploie, alors bétonnage, on parle aussi d'état bétonneur ou d'état constructeur, hein, en japonais on l'appelle dokenkoka, donc l'état travaux publics, et ça reflète un des travers, enfin, travers c'est un jugement idéologique, mais on va dire un des fonctionnements de l'État face au risque, qui prend, c'est vrai, un aspect qui paraît pour beaucoup disproportionné, en tout cas vis-à-vis de la nature du risque et surtout vis-à-vis des enjeux. Alors enjeu, c'est le terme un peu à la mode pour, c'est pas complètement synonyme, mais qui ressemble à la vulnérabilité. Donc pour protéger les enjeux, on construit beaucoup de barrages. Alors les critiquer et dire que c'est excessif, il faudrait, pour le faire, avoir des données très précises à l'appui pour pouvoir estimer la nature de l'aléa, donc les potentiels d'écoulement et la construction des barrages. Dans les faits, on se rend compte que souvent le peuplement en aval de ces barrages est très limité, donc les zones à protéger sont peu importantes. Et surtout, c'est, je dirais, du pain béni, ce risque, hein, qui sert d'alibi pour développer la construction publique. Et la construction publique, c'est, dans le contexte japonais, une sorte de parapet social qui sert de moyen de lutter contre le chômage. Il y a certains pays qui optent pour des protections sociales sous forme d'aides, d'allocations ou de subventions. Le Japon a décidé de choisir une lutte par l'emploi et les travaux publics, en particulier dans le domaine du risque, parce que c'est un argument qui est imparable. Et puis les riverains même sont évidemment demandeurs de cette protection. C'est un moyen de fournir des emplois. Et dans les petites îles, alors, dont Miyake fait partie, souvent avec l'agriculture, les travaux publics sont le premier, sinon le deuxième employeur local.
Oui, parce qu'il me semble avoir compris que dans l'Hokkaido, sur lequel vous avez écrit un article, hein, le risque naturel devenu symbiose, dans lequel vous comparez deux volcans qui ont donné lieu à deux projets d'aménagement, vous avez l'air de questionner, en tous les cas, l'importance de ces équipements dans cette grande île du nord du Japon qui est peu densément peuplée, n'est-ce pas ?
Ces barrages, alors à Hokkaido, les éruptions qui ont fait l'objet de ces travaux de défense sont des éruptions qui ont lieu dans les années 70 et 80, donc au mont Usu. Il y a une éruption en 1977 et une autre en 2000. Hein, c'était concomitant avec Miyakejima. Et à un autre volcan qui s'appelle le Tokachidake, qui est au centre, hein, de Hokkaido, alors que le mont Usu est plutôt vers le sud de l'île, il y a une éruption en 88, l'hiver 88-89. Et donc c'est le moment où, juste avant l'éclatement de la bulle, l'économie du Japon est extrêmement florissante et donc les budgets...
La bulle financière est liée également à la spéculation immobilière, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais, en 89.
En 89, à la fin des années 80. Et donc c'est un moment où les budgets du ministère de la Construction sont extrêmement généreux et donc on a bétonné effectivement généreusement les versants des vallées, les fonds des rivières pour protéger justement contre ce risque d'écoulement. Alors, ces barrages jouent aussi une forme de, un rôle de transfert de fonds. Il y a dans les villes des contribuables avec un système économique, on va dire, relativement efficace. Et dans les campagnes, on a au contraire des communautés qui tendent à se disloquer depuis quelques décennies, donc avec un exode rural, un dépeuplement parfois très prononcé. Et ce transfert de fonds via la protection passive, la protection contre le risque, vient apporter en quelque sorte une manne financière qui contribue à maintenir une certaine activité sur place. Alors, c'est bien évidemment jamais affirmé en tant que tel et pas le rôle premier de ces ouvrages qui restent avant tout là pour gérer des écoulements qui peuvent vraiment parfois être extrêmement puissants et capables de dégâts très importants.
Mais est-ce à dire, Marie-Augende, que dans les réflexions que vous menez avec d'autres, dans vos recherches, vous envisagez, ou il est envisagé, ici ou là, comment dire, des pratiques alternatives ?
Alors, peut-être qu'avec un regard extérieur...
À l'appréhension du risque.
Avec un regard extérieur, ou quelqu'un qui est un défenseur ardent de l'environnement, il y a des mouvements anti-barrages ailleurs qu'au Japon. Aux États-Unis notamment, où on a commencé à détruire ces barrages. Mais je n'ai pas l'impression qu'il existe... Alors, s'il y a toujours des mouvements environnementaux qui prônent un certain respect, pour qu'on puisse parler de respect de l'environnement, mais ces barrages ne sont pas perçus en tant que tels. Alors, d'une part, ils sont justifiés par la protection contre un danger qui est assez bien cerné. D'autre part... ils sont presque esthétisés, c'est-à-dire que pour un riverain qui peut subir les désagréments, voire les dégâts causés par des écoulements, c'est que plutôt quelqu'un qui est content que ces ouvrages soient créés pour le protéger du danger. Donc il y a quasiment une esthétisation. Il y a même un photographe qui s'appelait Shibata Toshio, si je me rappelle bien, qui a fait une exposition ou son fonds de commerce, en quelque sorte, de ce type d'ouvrage. Alors, il faut savoir que cette protection, elle prend aussi des aspects beaucoup plus verts, au sens strict, puisque à côté du génie civil et de la construction, il y a aussi beaucoup de travaux de revégétalisation des versants, ce qui est essentiel dans le contexte volcanique, puisque les cendres détruisent la vie autour d'elles, notamment la vie végétale. Et cette végétation a pourtant un rôle essentiel pour stabiliser justement les pentes.
Est-ce que c'est seulement les riverains qui se sentent à la fois concernés, rassurés et contents ? Ou est-ce qu'au-delà des riverains, c'est peut-être également la société que j'appelle urbaine, pour faire vite, donc de la côte est japonaise, de la mégalopole, qui d'une manière ou d'une autre se sent également en empathie avec ces pratiques que vous avez décrites ?
Alors, pour partir sur l'empathie, je pense qu'il y a une grande... pas communauté de destin, mais on constate souvent dans les catastrophes des grands mouvements de solidarité ou de bénévolat pour aider les victimes. Alors souvent, pour les dernières éruptions qui se sont produites en 1991, donc à Lunzhen, au Mont Usu en 2000 et à Miyakejima la même année, on a constaté qu'il s'est créé en fait un réseau d'habitants qui a essayé de mettre en synergie, en quelque sorte, les forces et les expériences de chacun. Donc il y avait vraiment une participation et une collaboration entre les différentes populations sans que l'État du tout soit impliqué. Donc ça s'est vraiment fait au niveau local. Et après, je ne pense pas que les populations urbaines se sentent vraiment concernées, mais ce qui est certain, c'est que quand l'État investit dans les campagnes pour créer des ouvrages contre le risque, il communique et il prend pied dans le territoire de l'incertitude de façon assez ostentatoire. Donc il montre en fait qu'il ne reste pas sans rien faire face au danger et à la catastrophe, mais qu'il intervient au contraire et qu'il est présent aux côtés des riverains ou à côté de la population pour gérer le risque.
C'est donc une manière aussi de faire de la politique finalement,
oui.
Cette manière de
surtout que
de gérer le
risque. Dans le domaine du bâtiment, il y a un système alors qui n'est pas du tout propre au Japon, même s'il il prend, je pense, dans le pays une forme particulièrement exacerbée, c'est ce qu'on appelle le dango, c'est des enchères truquées. Et c'est un système en fait qui nourrit l'administration, les politiques et les entrepreneurs du bâtiment qui trouvent chacun intérêt en fait à faire proliférer ce système.
Eh bien, l'émission est arrivée à son terme, Marie-Augende. Donc merci beaucoup pour vos précieux éclairages C'était Planète Terre consacrée aujourd'hui aux risques volcaniques au Japon. Sur franceculture.com, à la page Planète Terre, vous pouvez podcaster cette émission et écouter les précédentes. Surtout, vous y trouverez les articles et les photographies commentées de Marie Augendre. La semaine prochaine, Planète Terre évoquera les villes chinoises avec Jean-François Doulet. Merci à toute l'équipe, Brigitte Aléo, Ariane Herbé, Séam Moutata. Et maintenant, comme tous les mercredis, place à l'archéologie avec le Salon Noir de Vincent Charpentier. Bonjour Vincent.